Europa Voice numéro 59, et comme chaque semaine, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors cette semaine, eh bien, on va avoir deux sujets super intéressants. Le deuxième sera l'Europe, le coronavirus et les actions prises par l'Allemagne. Mais tout d'abord, on va parler de la Chine et on va quand même impliquer l'Europe, bien entendu, parce que les relations entre la Chine, l'Europe, l'Australie d'ailleurs, du coup, qui met son grain de sel ou son grain d'orge là-dedans, on va parler de tout ça. Ça se complique, les relations avec la Chine à travers le monde. Sur fond de coronavirus.
Lundi dernier, en fait, Christophe, l'Australie a obtenu le soutien d'une coalition de plus de 120 pays pour ouvrir une enquête indépendante sur l'origine de la pandémie, sur l'origine du Covid-19, dans un contexte, Christophe, où les relations, elles s'intensifient, les relations commerciales s'intensifient et surtout se détériorent entre la Chine et l'Australie. Donc, c'est assez intéressant parce que dans ce contexte de relations difficiles entre la Chine et l'Australie, c'est l'Australie aussi qui est à la tête de la locomotive pour cette enquête sur l'origine de la pandémie avec le soutien de nos amis européens.
Et là, la Chine qui brandit le drapeau du commerce et qui dit « Attention, si vous nous cherchez trop de poux dans la tête, nous, on peut aussi éviter de vous vendre certaines choses ou vous acheter certaines choses, ce qui pourrait plomber les économies. » Et l'a clairement fait sentir à l'Australie. On parle de l'orge, on parle du bœuf, on parle de plein d'autres exports que l'Australie a besoin pour survivre. Certaines économies de l'Australie ont besoin pour survivre. Et là, clairement, les Chinois jouent en rang serré et essaye d'appliquer une force diplomatique par le commerce.
Oui, Christophe, alors je crois qu'il y a trois éléments qui sont importants de partager avec nos auditeurs de SBS et d'Europa Voice dans ce contexte-là. D'abord, c'est que les tensions entre la Chine et l'Australie ne sont pas récentes, elles ne datent pas du Covid-19. Juste pour prendre un exemple, déjà il y a quelques mois, même années de cela, les deux pays en fait s'étaient fortement énervé autour notamment du refus pour le constructeur de télécom Huawei d'avoir construit un réseau 5G en Australie sur fond, Christophe, de soupçons d'espionnage chinois. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est pour vous dire que ces tensions-là entre la Chine et l'Australie, elles ne sont pas nouvelles. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Christophe, c'est que évidemment, la Chine est un partenaire commercial privilégié pour l'Australie. Pour l'Australie, le marché chinois est énorme. C'est le principal partenaire, que ce soit pour les imports ou que ce soit pour les exports par rapport à l'Australie. Et le troisième élément, Christophe, qu'il est important de comprendre et notamment qui va nous permettre de voir pourquoi ces menaces sur l'orge, sur le bœuf, elles sont à prendre très au sérieux pour l'Australie, c'est que, évidemment, ces actions, elles peuvent porter préjudice à l'économie chinoise, mais elles pourraient surtout porter un plus grand préjudice, Christophe, à l'économie australienne. Si je vous donne juste un exemple, vous avez mentionné l'orge il y a quelques instants. La Chine achète plus de 50% des exportations d'orge australien. On parle de plus de 2,5 millions de tonnes. Loin, notamment derrière le Japon avec 800 000 tonnes. Donc, si ces restrictions se mettent en place, si ces boycotts se mettent en place, il faudra évidemment que l'Australie se tourne vers des nouveaux marchés. Et il est difficile dans le contexte actuel et surtout de pouvoir rivaliser avec un marché aussi grand que le marché chinois. Donc voilà trois éléments qui expliquent pourquoi ces rivalités Chine-Australie, elles sont à prendre avec un très grand sérieux.
Et sur ce point de vue-là, d'ailleurs, on a vu la Chine qui accuse l'Australie de faire du dumping économique sur sa production d'orge, ce qui est incroyable quand on connaît l'économie chinoise un peu plus en avant. Hein, vous parlez de Huawei, c'est des économies qui sont quand même globalement soutenues ou en partie soutenues par l'État, par le gouvernement, pour pouvoir abaisser les coûts au plus bas au niveau international. Et là, aujourd'hui, la Chine accuse l'Australie de faire exactement ça.
Oui, Christophe, effectivement, les arguments vont bon train des deux côtés. En fait, ce que la Chine reproche à l'Australie, évidemment, c'est moins sur ces questions de dumping fiscal, de dumping économique, que d'être à la tête, encore une fois, de cette locomotive pour une enquête sur l'origine de la pandémie. Parce que même si le nom de la Chine n'est pas mis en avant sur le papier, c'est bien de là dont il s'agit, c'est de savoir comment cette épidémie est partie de Chine. Est-ce que les informations qui ont été communiquées sur l'ampleur de l'épidémie, sur le nombre de morts, il faut aussi le rappeler, Christophe, pour nos auditeurs d'SBS à travers le monde, c'est que les premiers cas, en fait, si vous voulez, en Australie, et les premiers clusters ne sont pas des clusters de ce qu'on appelle intracommunautaires, hein, ça n'est pas venu de par des Australiens, par des quartiers où résident des Australiens, mais évidemment par des voyageurs qui ont transité de la Chine vers l'Australie. Et donc, de fait, l'Australie, même si la réponse au Covid-19 et la réponse à la pandémie est plutôt bonne par rapport à d'autres pays, évidemment, le gouvernement de Morrison, du Premier ministre australien, a envie de savoir et a envie que les choses soient un peu plus claires sur l'origine de cette pandémie. Le deuxième élément aussi, Christophe, qu'il faut préciser pour nos auditeurs, c'est que en parallèle de cette enquête sur l'origine de la pandémie, il y a aussi la question de Taïwan qui a été portée devant l'OMS, qui fait encore un peu plus grincer les dents de la Chine, où en fait, pour le dire très clairement, et c'est là où c'est intéressant, Christophe, c'est on voit que le sanitaire et le géopolitique se mêlent, c'est que Taïwan est dans des très bonnes dispositions pour rentrer dans l'OMS. Elle l'est dans d'autant plus bonnes dispositions que la gestion de l'épidémie à Taïwan, la gestion du Covid-19, malgré la proximité avec la Chine, a été extrêmement bonne. On décompte, alors après, il faut toujours se méfier des chiffres officiels fournis par les États-Unis, mais on décompte à peine 7 morts à Taïwan. Donc évidemment, ça donne encore un peu plus de grain à moudre et de difficultés pour la Chine de refuser de voir Taïwan intégrer l'Organisation mondiale de la santé.
Si on parle exactement de la position australienne, le gouvernement de Scott Morrison a quoi à y gagner dans ce combat avec la Chine? Est-ce que ça peut renforcer les relations, on y pense directement, avec les États-Unis de Donald Trump et l'Europe? Est-ce que là, clairement, il y a aussi une position de proue par rapport, mise en place par l'Australie? Parce qu'on sait que ça écho exactement des discours tenus par Donald Trump, des discours tenus en Europe également, sur la position de la Chine par rapport à cette pandémie.
Je crois, Christophe, que du côté de Canberra, du côté de l'Australie, on comprend aussi qu'il peut être imprudent, d'une certaine façon, d'intensifier la lutte avec la Chine si on veut encore avoir des relations commerciales à la hauteur de ce qu'elles étaient jusqu'à présent. Non, la seule chose, si vous voulez, vous l'avez mentionné, Christophe, que l'Australie pourrait gagner, c'est évidemment de se tourner vers d'autres blocs pour des raisons géopolitiques, mais aussi pour des raisons économiques. On en reparle hein, ici. Hein. Il y a un accord de libre-échange qui est en train d'être négocié entre l'Union européenne et l'Australie actuellement. On en est, je crois, au round 7 ou 8 des négociations. Alors, oui, ça peut permettre d'accélérer ces négociations, mais encore une fois, hein, il faut le rappeler, hein, on parle d'un marché, si on compare la Chine même à l'ensemble de l'Union européenne, on est presque dans un rapport, si vous voulez, de 1 à 4, hein, entre 600 millions et plus de 2 milliards. Donc effectivement, ça permet à l'Australie de s'ancrer davantage et de jouer sur le terrain des accords de libre-échange avec d'autres puissances, avec d'autres blocs politiques et économiques. Mais encore une fois, hein, ce chiffre de l'orge, hein, des 50% des exportations d'orge australien, c'est pour ça que Canberra a aussi intérêt à ne pas la jouer trop offensive, parce que si les relations économiques et commerciales s'arrêtent du jour au lendemain, c'est surtout, encore une fois, Christophe, pour l'Australie que ça peut porter préjudice. Je crois surtout que maintenant que l'Australie a pris le lead de cet appel, si vous voulez, pour une enquête par rapport à l'épidémie, il va y avoir un petit pas en arrière qui va être fait et ça va être considéré, enfin l'Australie a tout intérêt à ce que ce soit considéré comme une initiative de groupe et non plus avec Scott Morrison. Ce qui s'est passé aussi, Christophe, c'est que les États-Unis ne jouent pas tellement la carte du multilatéralisme, comme vous l'avez mentionné il y a quelques instants, donc on ne pouvait pas compter sur eux pour mener cette bataille collective par rapport à la Chine, même si on sait la position que Donald Trump a vis-à-vis de la Chine. Donc ça ne pouvait venir que d'un pays tierce. C'est l'Australie, certainement pour des raisons géographiques, mais ça aurait pu être d'autres pays. Maintenant, je crois que c'est dans l'intérêt de l'Australie de se mettre un peu à l'écart et de faire eh ben, la relation avec la Chine, à défaut d'être au même niveau qu'avant, soit dans l'intervalle au moins pacifié.
Oui, l'Australie a tout intérêt à ne pas devenir justement le trop bon ami américain ou le trop bon ami européen. Ça me fait penser à un film, Le Dîner de cons, en tout cas, pour faire une aparté. Allez, on va parler direction l'Europe maintenant et on parle du monde d'après déjà en Europe. Et ce monde d'après, c'est intéressant de l'aborder justement d'un point de vue européen parce que on vient de parler du monde d'après, des relations chinoises avec le monde qui sont très proche du monde d'avant quand même. Mais en Europe, on réfléchit au monde d'après. Ce monde d'après, il vient d'un accord historique entre la France et l'Allemagne pour pouvoir aider les régions nord-sud européennes. Expliquez-nous un peu tout ça.
Ce monde d'après, Christophe, en fait, il vient de la part de deux anciens acteurs ou de vieux acteurs européens, la France et l'Allemagne, ce couple sempiternel qui, tous les deux, en fait, ont jeté les bases. Alors, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'un monde d'après, mais en tout cas d'une relance européenne. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'en l'espace d'un mois, Angela Merkel, hein, il faut le rappeler, encore fin mars dernier, Christophe, elle était fermement opposée à l'idée de tout endettement commun lors d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement. Hein. On en avait parlé dans un précédent podcast d'Europa Voice. Et puis là, il y a eu une proposition franco-allemande d'un emprunt européen de 500 milliards d'euros qui met surtout fin, Christophe, à un tabou économique, c'est la mutualisation des dettes. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Ça veut dire qu'on est peut-être en train de voir, Christophe, la naissance d'une véritable solidarité européenne. On n'en est pas encore à, ce ne sera pas un accord hein, franco-allemand, c'est une proposition franco-allemande que les 27 devront accepter. Ce qui se passe, c'est que la France et l'Allemagne proposent en fait que la Commission européenne s'endette à hauteur de 500 milliards d'euros, hein, on parle de nouveau de ce chiffre-là, et ensuite verse cet argent par le biais du canal du budget communautaire aux États et aux régions qui ont été les plus durement touchés par la pandémie. Alors, c'est quoi le changement? C'est que ce n'est pas un prêt et ce n'est pas aux États à qui on prête l'argent qui ont été les plus durement touchés de rembourser, quand bien même les taux seraient très favorables, on en avait parlé. Hein. Non, c'est plus ce prêt-là, c'est plus ce mécanisme de prêt, c'est de l'argent qui est intégré au budget européen et ce qui veut dire en fait que c'est l'ensemble des 27, pour le traduire dans des mots simples et accessibles, c'est l'ensemble des 27, Christophe, qui participent de cet effort financier. Et c'est en ça, Christophe, qu'on est en train de voir, si ce n'est la naissance d'une solidarité européenne, en tout cas un surplus d'entraide entre les pays européens, entre les pays du Nord et les pays du Sud.
Et pourquoi c'est historique ça? Parce que ça n'a jamais été fait en fait, on l'a déjà débattu avant. On savait par exemple que les Pays-Bas étaient contre ça, on savait que les pays du Nord plus riches, qui avaient une économie qui avait beaucoup moins d'intervention au niveau de l'État, étaient pas forcément pour ça. C'est dans ce cadre-là que c'est historique au niveau européen.
Alors c'est historique, Christophe, pour une simple et bonne raison, c'est que c'est la première fois qu'une proposition de telle sorte est faite par la France et par l'Allemagne. Hein. Il avait fallu jusqu'à présent surtout convaincre le partenaire allemand, qui est normalement le garant d'une véritable orthodoxie budgétaire. Mais comme vous l'avez mentionné, Christophe, rien n'est encore fait, hein, puisque dès lundi soir, hein, quelques heures après l'annonce de cette proposition franco-allemande, on retrouve notre ami, le chancelier autrichien Sébastien Kurz, membre du groupe des pays qu'on appelle frugaux, qui a pris ses distances et qui a dit qu'il voulait d'abord avoir une concertation avec ses amis des autres pays frugaux, en l'occurrence les Pays-Bas, le Danemark et la Suède. Donc, effectivement, rien n'est fait, mais c'est historique parce que c'est déjà quelque chose qui est mis sur la table. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Christophe, qui est intéressant dans cette proposition-là, c'est que aussi, en fait, on avait parlé lors du précédent numéro d'Europa Voice, les juges de Karlsruhe et leur position hein, par rapport et critique par rapport au droit communautaire, et ben d'une certaine façon, le jugement de Karlsruhe a levé les contradictions de l'Allemagne vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne. Pourquoi? Parce que quand les juges de Karlsruhe nous ont dit, Christophe, la semaine dernière, que la Banque Centrale Européenne ne pouvait plus exercer sa solidarité par le biais monétaire, hein, et ben donc il a fallu trouver un autre moyen que le biais monétaire, que la planche à billets, si vous voulez, et ben cet autre moyen, c'est le moyen budgétaire. Alors je sais que ça paraît compliqué, mais en gros, ça veut dire que justement, on va plus aller dans ce mécanisme de prêt garanti par la Banque Centrale Européenne, faire jouer la planche à billets, etc. Non, on va, si vous voulez, passer de l'économique, du monétaire, au politique, le budgétaire. Et c'est ça, c'est en ce sens-là aussi que c'est historique. C'est que c'est plus les acteurs économiques, c'est plus la Banque Centrale Européenne qui est au centre de ce dispositif-là, ce sont les acteurs politiques eux-mêmes, c'est le couple franco-allemand, c'est la politique européenne elle-même qui fait un grand pas en avant vers la solidarité.
On pourra voir les fruits de ça quand, à votre avis? C'est quelque chose qui pourrait être mis en place dans les budgets à venir. On parle de la prochaine année financière, de l'année d'après. Est-ce qu'on est un peu plus loin ou est-ce qu'on est vraiment dans le post-Covid réaction ultra rapide?
Il y a une phrase, Christophe, qu'Emmanuel Macron a prononcée que je trouve assez intéressante lundi soir. Il a dit « Un accord entre la France et l'Allemagne ne veut pas dire un accord à 27, mais il y a d'accord à 27 sans accord franco-allemand ». Ça veut dire quoi? Donc cette phrase du président de la République française, Emmanuel Macron, ça veut dire qu'à partir du moment où c'est le couple franco-allemand qui a mis le pied à l'étrier, qui a initié ça, ça peut aller extrêmement vite dans les 27. Et en fait, ce dont on est en train de parler, c'est pas pour l'année prochaine, Christophe, non. C'est dans l'idée, pour Emmanuel Macron et Angela Merkel, que cet accord, que cette proposition en tout cas, donne une référence à la Commission. Parce qu'il faut le rappeler, hein, la Commission elle a été mandatée par tous les États membres pour proposer un plan de relance qui doit être présenté le 27 mai. Donc dans quelques jours, Christophe. Donc on va Ça ne veut pas dire que tout sera dessiné, hein. Ça ne veut pas dire que les différents mécanismes, notamment sur le remboursement de l'emprunt qui devrait être contracté quand même par la Commission, sur les critères d'accompagnement de l'attribution, etc., ça ne veut pas dire que tout ça sera défini, mais ça veut dire que dans la machine politique, on saura très vite s'il y a une suite européenne collective à cette avancée, à cette proposition franco-allemande qui, encore une fois, Christophe, brise des tabous au sein de l'Union européenne ancrés depuis des décennies.
Et qui dit suite dit affaire à suivre. Merci Nathanaël.
Merci Christophe.